Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente Génération Do It Yourself. L'idée de ce podcast est de décortiquer le succès de sportifs, d'entrepreneurs ou d'artistes. À travers des discussions sans filtre, je cherche à découvrir leur parcours, leurs outils et de comprendre leur mode de pensée et leur organisation. Ce podcast existe grâce à Cosa Vostra. Avec Cosa Vostra, nous conseillons et accompagnons autant des grandes entreprises du luxe du CAC 40 que des startups, des PME très traditionnelles et même quelques entreprises et administrations publiques. Ma plus grande fierté, c'est avant tout la merveilleuse équipe que nous avons constituée. Nous nous arrachons au quotidien pour trouver des talents dans plein de domaines du digital, les meilleurs designers, les meilleurs développeurs ou encore les meilleurs consultants pour accompagner nos clients dans leur croissance et leur innovation. Nous serions ravis d'échanger avec vous autour de vos problématiques. Envoyez-nous un email à contact@causavostra.com et si vous avez des talents à nous recommander, connectez-vous sur le site www.cosavostra.com. Merci. Salut, je suis aujourd'hui à Genève, très bien accompagné, je suis avec Joël Dicker. Salut Joël.
Salut Mathieu.
Je suis ravi de te voir. On se connaît depuis quelques temps Joël, de réseaux on va dire familiaux presque, indirect. Et ça fait un bail que je
direct,
t'ai pas vu.
Même,
direct, direct, tu as raison. Et ça fait un bail que je t'ai pas vu et t'es toujours aussi beau, t'es toujours aussi grand, je suis toujours aussi
pas les
content.
Insultes, pas les insultes.
Alors Joël, je vais te demander de te présenter.
Oui, je m'appelle Joël Dicker, j'ai 33 ans, je suis né le 16 juin 1985 à Genève, où j'habite toujours. Je suis donc suisse, j'ai une formation de juriste, j'ai fait toutes mes écoles et mon lycée à Genève. J'ai ensuite fait une année après le lycée parce que je savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie. Et je suis allé à Paris. J'ai suivi pendant un an, bon an, mal an, les cours Florent. Et je croyais que j'avais envie d'être acteur. Et puis en fait, d'être immergé comme ça dans une école et de découvrir ce que ça veut dire et ce que ça implique, je me suis rendu compte que j'aimais jouer la comédie, mais que j'avais pas envie d'être acteur, hein, que j'avais pas le feu sacré. Et du coup, je me suis dit aussi que j'aurais besoin d'avoir un diplôme en poche, parce que c'était mon avis à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est toujours bien d'avoir un diplôme, c'est toujours un filet de secours qui peut servir pour la vie. Et donc, j'ai fait des études de droit à Genève. Pourquoi le droit? D'abord parce que c'est une matière qui m'intéressait. Et aussi parce que le droit est une des très rares disciplines qui ne demande pas de faire des mathématiques. Et ayant une horreur absolue, mais absolue, hein, des mathématiques, me soupçonnant même d'être un peu, d'avoir quelques problèmes à lire les chiffres et à les comprendre, à calculer très mal, donc j'ai une phobie presque, hein, c'est ce que je voulais dire, des maths, j'ai fait du droit et ça m'a plu. Ça m'a plu, mais je me suis rendu compte, comme pour le théâtre, que j'avais pas le feu sacré et que en faisant du droit, je me suis rendu compte que je deviendrais probablement un avocat correct, mais je trouvais que être correct, c'était pas très ambitieux. Et je dis ambition dans le meilleur sens du mot, c'est-à-dire avoir envie de se lever le matin et d'avoir une forme de passion, de rage de vivre et de se dire c'est génial, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au niveau du métier. Et à côté de ça, j'ai toujours eu des élans artistiques. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours aimé ça. Je me destinais à un moment donné même à être musicien. Et puis, j'ai basculé peu à peu, en même temps d'ailleurs que j'ai commencé mon droit.
Je me souviens de la musique, en l'occurrence, et de ces moments. Et je me souviens qu'on se connaissait quand je t'ai connu, tu avais une vingtaine d'années à peu près.
Ouais.
J'ai plus de souvenirs de musique et en effet, j'ai été très surpris après de te revoir quelques années après avec des bouquins, quoi. Et puis un premier qui était sorti et puis le deuxième qui sortait. C'est vrai que tu étais à fond dans la musique. Hein.
Mais je l'ai toujours été, je dirais, je le suis toujours.
Ouais.
Et la musique, c'est ma formation, c'est mon élément. C'est probablement, je dirais, ce que je fais le mieux. Mais je n'ai pas réussi à en faire ce que je voulais. Si tu vois la différence de notion, on peut faire quelque chose très bien, mais on peut tout d'un coup sentir qu'il nous échappe, qu'on n'a pas la maîtrise complète de ce qu'on veut en faire.
Mais tu parles en termes de ce que tu fais de mieux, en termes d'exécution ou de création ? Tu crées ?
Ben, les deux.
Ouais.
Les deux, dans la musique, je pense qu'il y avait modestement beaucoup de choses que je faisais bien. Et j'étais batteur. Alors, j'étais batteur, je connais un tout petit peu les harmonies, mais j'ai toujours été très dilettante. Et donc, j'ai pas une maîtrise vraiment du solfège, des accords, de tout ça. Et donc, j'ai toujours vécu batteur, dilettante, sifflotant des mélodies, mais j'avais toujours besoin de la béquille de quelqu'un d'autre. Et j'ai eu plusieurs groupes. Et en fait, ce qui m'a fait changer peu à peu de carrière, c'est que j'ai eu un groupe de musique, justement vers 20 ans, ce moment dont tu parles ici. Et c'était un groupe qui marchait plutôt bien. On a commencé, on répétait une à deux fois par semaine, et le groupe marchait de mieux en mieux. Et on a, via MySpace, trouvé un producteur français qui était en réseau et qui bossait entre autres avec Universal Music. Et ce producteur nous a dit on pourrait faire un truc ensemble. Et en fait, ce qu'on pourrait penser qui était un aboutissement, c'est-à-dire se dire ah, on a trouvé un mec, un producteur, Universal peut-être, etc., ce n'était que le début. Et donc là, moi, j'ai commencé à dire aux autres, je dis bon, alors là, il faut qu'on répète minimum une fois par jour, quoi. Là, c'est, il faut bosser dur, etc. Et les autres ont dit ah, mais tu sais, fais chier, parce que je sais pas, tous les jours, on n'a pas le temps, et puis le boulot, et puis le samedi, c'est, on doit faire les courses, et puis le ménage, et la vaisselle, et je sais pas quoi. Et j'ai tout d'un coup senti cette différence entre l'envie, je disais avant, la passion, envie de bouffer du lion. Et moi, j'avais envie vraiment de bouffer du lion avec cette musique et de vivre et de faire que ça tout le temps et me donner les moyens de mes ambitions, si tu veux. Et les autres ne voulaient pas. Et le groupe s'est écroulé à cause de ça. Parce qu'il y avait une telle disharmonie dans l'ambition qu'on avait que ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis retrouvé très triste et très malheureux de la situation. Je voyais assez mal comment je pouvais tout d'un coup seul, et à ce moment-là, j'ai autour de 20 ans, je voyais mal comment je pouvais seul devenir musicien ou homme orchestre, ça voulait dire me reformer de A à Z, c'était assez compliqué, en tout cas, je le trouvais très hors de portée de ce que je pouvais faire. Et du coup, à côté de ça, j'avais l'écriture qui était quelque chose qui m'habitait et qui était mon quotidien aussi. Et je me suis dit, mais l'écriture, au fond, c'est la quintessence de ce que je peux faire seul. C'est-à-dire qu'écrire un livre...
Je t'arrête juste là-dessus. Parce que donc, t'as la musique à fond, t'as l'écriture, t'as les études de droit.
Ouais.
Je veux dire, par rapport à un gosse de ton âge ou un jeune adulte, un jeune homme, tu fais que ça? Où tu as une vie normale, tu sors, enfin, parce que j'ai quand même pour empiler les choses, écrire, faire de la musique, faire bien de la batterie à un certain niveau, et voilà, faut travailler, quoi.
Oui, je sors aussi, mais bon, les journées ont 24 heures.
Ouais.
Et c'est beaucoup, 24 heures. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup. Alors, j'ai la chance d'avoir pas besoin de dormir beaucoup, ce qui rallonge un peu le temps, mais j'ai toujours
fait
beaucoup.
Combien, pas
beaucoup? En moyenne, 5 heures, ça va. 5-6 heures, des fois moins. C'est-à-dire que je fonctionne très bien avec 4 heures de sommeil, mais sur le long terme, c'est difficile.
Ouais.
Et en général, moi, j'ai un rythme qui commence tôt le matin, je me lève en général vers 4 heures du matin.
D'accord.
Et donc, je donne une moyenne de 6 heures parce qu'il y a des jours où je me couche à minuit et je me lève à 4, mais sur le long terme, c'est-à-dire année après année, 4 heures de sommeil, je sens que ça ne me réussit pas. Donc, il faut arriver à consommer. 4 heures, c'est le réveil. Je me mets un réveil et souvent, mais très souvent, je me réveille tout seul, juste avant le réveil. Et c'est 4 heures du matin, c'est une heure qui me convient bien parce que, en tout cas, telle que je l'aperçois, c'est une heure très calme où je suis très créatif. Et c'est aussi un moyen pour moi de mesurer mon envie ou l'excitation du projet, en l'occurrence un livre dans lequel je me trouve. Parce que si quand, à 4 heures du matin, mes yeux tout d'un coup s'ouvrent en me disant c'est l'heure ou que j'ai mon réveil qui sonne et que je bondis de mon lit en me disant qu'est-ce qui va se passer dans le roman aujourd'hui. Je me réjouis de me dépêcher un petit café et je m'assieds à mon ordinateur et je continue ce roman. Et cette excitation-là, pour moi, elle est un guide très important du succès. Parce que le succès, qu'est-ce que c'est? Et là, je cite mon éditeur Bernard Defalois. Le succès, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et pour moi, l'existence du roman, et ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai finalement rencontré le succès avec mon deuxième roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, après beaucoup d'essais qui ont été des échecs, qui ont été notamment refusés par les éditeurs à qui je les envoyais. Et je crois que Harry Kéber, qui a connu un succès commercial, a aussi été pour moi un succès d'écriture parce que c'est le premier roman que j'ai écrit avec un vrai plaisir, c'est-à-dire un plaisir personnel. C'est-à-dire le bonheur d'écrire un livre. Alors, à ce moment-là, j'avais écrit déjà 5 romans qui avaient été refusés par tous les éditeurs possibles et imaginables. Et j'envisageais ce roman en me disant, de toute façon, personne ne va le lire. Et personne ne va le faire paraître parce que, de toute façon, si tous les précédents romans ont été refusés par 20 éditeurs, il n'y a pas de raison que celui-ci plaise. Et du coup, je l'ai abordé d'une façon très différente qui était un succès pour moi, un plaisir pour moi. Et c'est comme ça que je travaille aujourd'hui parce que le succès d'un livre, c'est quelque chose qui est défini par les journalistes, oui, par les libraires, par les lecteurs, par ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz. Mais ça, c'est le succès commercial. Mais je crois, et je crois vraiment à ce que je dis, que le succès d'un projet comme un livre, mais ça peut être pareil pour un dessin, pour de la peinture, pour toute entreprise personnelle et ou artistique, le succès, c'est ce que ça t'apporte à toi. Et moi, un livre, il est réussi, c'est un succès quand j'ai eu du plaisir à le faire, quand je me suis levé tous les matins à 4 heures en me disant « Ah, c'est génial !»
Et si tu... Alors, on va revenir sur tout ça après, mais si tu... Si je dois pousser le raisonnement jusqu'au bout, si tu t'éclates à faire un livre et que c'est un gros beat d'audience, genre et que tu fais 10% de ce que tu as fait avant, mais que tu t'es régalé, que tu as pris du plaisir, ce sera un succès pour toi. Tu crois que tu pourrais vraiment... Ou tu serais quand même dévasté. Enfin, ou dévasté.
Dévasté, je ne sais pas si dévasté. Mais tu poses une question qui est difficile et à laquelle il faut répondre de façon honnête, à laquelle je dois répondre de façon honnête. Quand, alors, Harry Kéber, par exemple, qui s'est bien vendu, hein, qui s'est vendu à peu près 5 millions d'exemplaires dans le monde.
J'ai lu, oui.
C'est sûr qu'il y a un succès commercial énorme. 40 langues. Et c'est sûr que c'est un succès commercial énorme. Mais tu vois, si tu fais que 10% de 5 millions, ça fait 500 000. Et il y a des auteurs qui seraient contents de vendre 500 000.
Ouais.
Mais en même temps, si tout d'un coup, je passais de 5 millions à 500 000, honnêtement, je me dirais, fais chier. Mais parce que c'est deux approches qui sont différentes. L'approche du plaisir, de mon plaisir à moi d'écrire un livre, et en fait, je travaille de la façon suivante, je ne partage pas ce que j'écris jusqu'à ce que le livre soit fini. Donc, ça veut dire que je passe 2 ans à écrire tout seul un livre que je partage avec personne. Personne, personne.
Rien, pas de trame, pas de...
Rien, parce que je pense que c'est impossible de partager un livre avec quelqu'un, un livre qui n'est pas fini. Parce que si je fais lire la moitié de mon livre à quelqu'un, il va me dire, écoute, jusque-là, c'est pas mal, mais il faut que je lise tout pour avoir une idée. Et c'est vrai, moi, il y a des livres que j'ai lus, que j'ai adoré de la page 1 à presque la fin, les 20 dernières pages sont pourries, et à la fin, je dis, en fait, j'aime pas ce roman. Et il y a des livres où j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine, que j'ai pas aimé, puis que j'ai continué quand même, puis j'étais pas sûr, et finalement, la fin est géniale, et tu te dis, quel livre génial. Donc, je trouve qu'un livre, c'est très difficile. La musique, c'est différent. Tu peux faire écouter une chanson, et les gens vont dire, ça, j'aime, etc. Un livre, je crois que c'est un tout. Et donc, j'ai besoin de vivre ce tout tout seul. Et donc, cette partie-là, pour moi, elle doit être un succès, c'est-à-dire avoir du plaisir. Ça veut dire que les années, les 2 ans que j'ai passés, ça doit être 2 ans que j'ai passés avec fierté, mais fierté par rapport à mon projet, par rapport à moi. Par rapport, vraiment, c'est quelque chose de très personnel et c'est aussi être fidèle à ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et tu vois, la difficulté quand tu écris un livre qui marche, c'est que ensuite, le livre suivant, qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais quelque chose qui est tout à fait pareil, les gens vont dire « Ah, c'est pas mal, mais c'est comme le précédent.
Ouais. »
Et si tu fais quelque chose qui est complètement différent, les gens vont dire « C'est dommage que vous n'ayez pas fait quelque chose comme le précédent, il était tellement bien. » Donc, tu ne peux pas tellement te fier à ce que les gens vont te dire. Je crois que tu dois te fier à ton instinct à toi et à ce que tu as envie de faire et avoir une forme de confiance. C'est la question de l'instinct aussi. Moi, on m'a souvent dit, j'ai souvent dit que je voulais être un écrivain et on m'a souvent dit « Mais ce n'est pas un métier. » Et on m'a dit, mais... Et à un moment donné, j'ai moi-même décidé d'arrêter mes études de droit. Donc, si tu veux, j'ai terminé mon cursus, j'ai un master en droit. Mais en Suisse, la logique voudrait qu'ensuite, tu passes ton barreau,
oui,
et que tu fasses un stage. Et donc, c'est encore 2 ans et demi. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé de m'arrêter là et de ne pas passer le barreau parce que je me suis dit, je m'engage dans un engrenage qui n'est pas celui que je veux. Et je me dis, il est temps maintenant de faire face à mon envie et à mon instinct, et mon instinct me disait 2 choses. Il me disait, t'as pas vraiment envie d'être un avocat, Et tu as envie d'être un écrivain. Et je me suis dit...
Sachant que ce que tu dis, c'est important, parce que j'ai eu plusieurs personnes sur ce podcast auxquelles je pense, hein, mais qui sont vraiment embarquées dans un engrenage qui est... alors souvent, en plus, un engrenage d'élite, si tu veux, où tu fais, alors sur des cursus français, mais une maths-sup, maths-p, ou des cagnes-hypocagnes, t'arrives dans des super écoles, que ce soit Sciences Po, l'ENA, ou du Polytechnique, ou des choses, puis tu finis dans une banque à faire de la finance, ou je sais pas où, à être dans des hautes arcanes de l'État, et à te retrouver coincé dans un truc où, si tu pars, là, t'as un jugement qui est très fort de tout le monde autour de toi, et je pense, du coup, c'est assez courageux de le faire assez jeune et de croire à cet instinct aussi, une fois que t'as atteint un certain backup de ce master, peut-être.
Oui, et on n'est pas obligé d'aller... ou c'est plus simple, parce que quand t'es jeune, tu vois, au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire au moment où je décide de m'arrêter au master, j'ai 25 ans, et je me dis... Voilà, si je galère quelques années, j'ai toujours le temps de retomber sur mes pattes, de faire quelque chose d'autre. Mais
t'as rien écrit encore, là.
Enfin, à ce moment-là, quand j'arrête ça, donc j'ai 25 ans, j'ai écrit 5 romans, donc de l'âge de 20 à 25 ans, et les 5 romans ont été refusés les uns après les autres par tous les éditeurs possibles et imaginables.
Donc pendant toutes tes années de droit, t'écris par exemple, un roman par an.
Ouais,
un roman par an.
Ouais.
Et du coup, ceux-là, tu les sors de ta tête et de ton ordi, ou de peu importe, tu les proposes à des gens, il y a des gens qui les lisent, ta mère, tes potes, tes cousins.
Oui, alors je les fais lire à quelques-uns, à mes parents, à des amis, à mes cousins. C'est difficile en plus de trouver des gens qui veulent bien lire parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps.
Oui.
Et que c'est difficile qu'ils trouvent le temps de t'en parler. C'est difficile en plus pour ces gens-là de donner un retour qui soit honnête, parce qu'en même temps, ils savent pas très bien quoi te dire, parce que s'ils ont pas aimé, ils ont pas envie de te faire de la peine. Alors ils te disent c'est pas mal. Et puis s'ils ont beaucoup aimé, ils ont pas envie que tu t'emballes, donc ils vont te dire c'est pas mal. Donc t'es toujours dans un...
Puis ils sont pas forcément objectifs.
Et ils sont pas forcément objectifs, donc c'est compliqué. Et donc moi j'écris un premier livre que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables, et tout le monde me dit non merci beaucoup, alors j'écris un deuxième livre.
Et ça se passe comment, juste parce que je viens pas de cet univers, et beaucoup de gens qui nous écoutent également, une majorité je dirais, t'envoies ton bouquin par mail ou par...
c'est physique, donc physique. T'envoies à des éditeurs, j'ai envoyé à des éditeurs un peu en Suisse et surtout en France, toutes les grandes maisons d'édition.
Oui.
Tu leur envoies ton manuscrit, donc ton manuscrit est fini, tu l'imprimes, tu vas chez un photocopieur qui te fait des photocopies de ton truc, qui le relie avec un anneau au milieu, et puis tu fais tes jolis petits exemplaires de ton livre, et puis tu mets une petite lettre dedans en disant « Madame, monsieur, je me permets de vous soumettre mon manuscrit, j'espère qu'il vous plaira », et tu l'envoies à la poste, tu vas sur Internet, tu cherches les adresses.
Pas du tout s'ils le lisent ou pas.
Et tu sais rien, et puis parfois tu reçois un accusé de réception, parfois pas. Et puis, 2-3 mois après, tu reçois, jour après jour, des lettres dans ta boîte aux lettres où on te dit « Madame, monsieur » ou « Cher monsieur », ça dépend. « Nous avons reçu votre manuscrit, nous avons pris connaissance de votre livre, mais ça ne nous intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. »
Et là, avec le recul, tu sais ce qui se passe dans la machine à ce moment-là? Tu sais s'ils les lisent? Tu sais si... Tu t'en sais rien?
Ça, j'en sais rien. J'en sais rien et j'en sais vraiment rien. J'ai l'impression quand même qu'il y a une lecture qui est faite. Et là, je parle sans connaître vraiment, parce que je ne connais pas bien le milieu éditorial français, parce que maintenant, moi, je suis édité chez un petit éditeur qui n'a pas les contraintes que peuvent connaître les grandes maisons auxquelles on pense tous. Je pense à des Grasset, des Seuil, les Gallimard, etc., qui reçoivent des quantités industrielles de manuscrits tous les jours.
Oui.
Et donc, comment pouvoir traiter tous ces manuscrits? Je ne sais pas comment c'est possible de le faire complètement ou bien. Alors, je crois qu'ils ont un système qui fonctionne relativement bien, et il y a tous les ans des livres qui sont des succès, qui sont des livres envoyés par manuscrit, par la poste. Je pense à Alexis Génie pour L'Art de la Guerre, qui a envoyé son manuscrit par la poste à Gallimard, premier roman, qui a reçu le prix Goncourt pour ce livre-là. Donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas et que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des bons livres qui passent entre les mailles du filet? C'est très probable. Mais est-ce qu'il y a des livres qui sont sélectionnés comme ça et qui sont des succès? Oui, il y en a aussi. Tu sais, c'est difficile un livre, parce que pour un éditeur, quand il lit un livre et qu'il doit décider s'il va le faire paraître ou pas, il doit aussi se poser la question de « est-ce que moi j'y crois ?» Et si on a des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que la difficulté pour un entrepreneur, comme pour un écrivain, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui va croire en son produit, qui va arriver à se projeter. Et souvent, quand tu es entrepreneur et tu parles de ton produit à d'autres gens et surtout des non-entrepreneurs, les gens ils disent mais attends, ça va jamais marcher, ton histoire, machin. Et donc c'est très particulier.
Il y a une grosse différence cependant, c'est qu'on dit beaucoup que dans les entreprises dans lesquelles, par exemple, quand on cherche à lever de l'argent, on a traité ce sujet à maintes reprises sur Génération Do It Yourself, tu vas convaincre des gens qui généralement misent un peu sur ton projet et beaucoup sur toi. Sur un écrivain, c'est un peu l'inverse. Je veux dire, quand même, il y a un moment où tu balances un produit fini.
Oui.
Que tu sois hyper fort, hyper beau, hyper je sais pas quoi, hyper bankable. Si ton produit est pas terrible et qu'il va pas évoluer, il peut évoluer un peu peut-être pour ça chez certains des éditeurs. On va te dire, faut tordre un peu ce machin. Mais dans l'absolu, t'as quand même un truc qui est un produit fini ou quasi fini.
Ça, t'as absolument raison. Et c'est le livre qui fait quasiment tout. L'écrivain qui est affable et qui accepte de faire de la promotion et qui passe bien à la télé peut aider un petit peu, mais ça va pas faire le succès. De même que l'écrivain qui est pas affable et qui passe pas bien à la télévision, il va pas péjorer le succès de son livre si le livre est bon et si le livre marche. Donc le livre, c'est vrai que c'est quelque chose, t'as absolument raison, c'est un produit qui fonctionne tout seul parce qu'il a une forme de propre vie.
Ouais.
Et la
d'ailleurs,
relation...
il se survit souvent. Parce que
oui. Mais d'ailleurs, c'est la difficulté, c'est qu'en fait, moi, le plaisir que j'ai à écrire un livre, c'est un plaisir que je ne peux partager qu'avec moi. Parce qu'une fois que le livre paraît et que
c'est
le livre
bon,
est lu,
ouais, ouais.
Et ben les gens, tu vois, là, je vais partir dans quelques semaines, je pars en Amérique du Sud faire une tournée pour mon dernier roman, Stéphanie Meller, qui est paru en français en mois de mars.
Ouais.
Et en fait, là, je suis sur autre chose.
Que j'ai lu, qui est
donc
très bon.
Complètement, ouais. Merci, mais je suis complètement ailleurs. Donc, tu vois, je vais voir des gens qui vont me parler de mon livre et qui me disent « Ah, je l'ai lu hier » ou « Je suis en train de le lire » et machin, et ci et ça, et qui me parlent de leurs émotions. Mais moi, je suis complètement ailleurs parce que je suis dans un autre livre. C'est un peu comme les acteurs qui font de la promo d'un film qui sort maintenant, mais le film, ils l'ont tourné il y a 2 ans et ils sont dans un autre rôle.
Ouais.
Et il y a ce décalage qui est permanent et c'est pour ça que je reviens sur l'idée du plaisir, que le vrai seul élément de validation pour moi, c'est le plaisir que je peux avoir à écrire un livre, parce que même si le livre n'a pas de succès, avec la déception évidemment qu'il y aura qui va accompagner ce non-succès, la tristesse et la déception et tout ça, il y aura quand même la conviction d'avoir fait le bon choix.
Sachant qu'on ne peut pas t'accuser, excuse-moi,
non, je t'en prie,
on ne peut pas t'accuser de complètement d'être faux cul ou hypocrite, parce que tu as quand même eu 5 bouquins avant. Je sais pas si tu étais déjà dans cette démarche, mais sur lesquels tu t'es ramassé. Donc, je veux dire, et t'as continué, t'as même arrêté tes études en te disant, et c'est là où c'est fort en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que quand tu prends 5 claques comme ça, 5 fois d'affilée, à la fin tu dis, tiens, je vais arrêter le droit et je vais devenir écrivain. Enfin, alors qu'en parallèle, t'as validé tes 5 années et que t'as ton master. Je veux dire, il y a un moment, je peux te dire, t'es un peu con. Même
tu
si
sais,
après coup, c'est compliqué. Mais...
C'est plus facile, c'est toujours plus facile de voir le chemin après qu'avant. L'idée de voir comment ça s'est fait, tout d'un coup, quand tu regardes ton chemin en arrière, tu dis, ben c'est évident. Si je dois me replonger à ce moment-là, je crois quand même... Tu sais, je suis assez croyant en la visualisation. En la visualisation d'une réalisation ou d'une possibilité qui est quelque chose de difficile à expliquer, de difficile à définir, mais qui est une forme d'instinct. Et l'instinct est vraiment un truc qui ne te trompe pas. Comment expliquer l'instinct? C'est un truc assez incroyable, mais qui, ouais. est là. Et l'instinct, le problème de l'instinct, c'est que tu as un petit enfant qui naît. Son instinct, il est de sang. C'est comme ça qu'il survit. Les tout petits nourrissons sont des boules qui survivent et qui sont très fortes. On prend les nourrissons comme étant très fragiles, mais c'est pas vrai. Ils ont leur faiblesse, évidemment, mais je veux dire, ils sont pleins d'instincts et ils ont cet instinct de survie, entre autres, qui les fait vivre. Et puis, à tout d'un coup, ils grandissent, ils vont à l'école, etc. Et ils commencent à confronter leur instinct avec ce qu'on va leur dire. Écrivain, c'est pas un métier. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors, il y a des choses qui sont pour leur bien. Je ne parle pas de l'envie, de pas envie de faire de l'école ou ça. Mais l'instinct te dire, mais je crois que c'est ça que je dois faire. C'est ça, ça c'est mon chemin. Et c'est quelque chose qui est très inexplicable, mais qui est un ressenti. Et moi, j'y crois beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué à ce moment-là et que je me suis dit, je ne crois pas que j'avais le sentiment que j'allais être écrivain et que j'allais réussir. Je n'avais pas cette certitude-là. Mais j'avais la certitude que je devais arrêter le droit. Tu vois, c'était pas tellement une certitude de ce que j'allais pouvoir faire, mais une certitude de ce que je ne voulais pas faire. Et c'est souvent un truc qui est important quand tu as beaucoup d'idées. Et c'est souvent ce que je dis à des gens ou à des plus jeunes qui ont 20 ans et qui me disent « Et c'est dur quand tu as 20 ans et que tu dois faire un choix. Tu vas faire des études qui vont t'asseoir dans une direction ou une autre. » Et souvent, les gens me disent « Mais tu vois, j'aime ci, j'aime ça, j'aime aussi ça et ci. » Et ils ont beaucoup de choix, beaucoup de cordes à leur arc et ils ne savent pas laquelle choisir. Dans ces moments-là, je leur dis « Mais... t'as pas un choix à faire dans ce que tu veux faire, puisqu'il y a plusieurs trucs que tu veux faire, mais commence par enlever ce dont tu sais que tu ne veux pas le faire. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je savais que le droit, c'était pas ça.
C'est une très belle perception de l'instinct, parce que, alors moi, je pense être très instinctif également, et c'est quelque chose à la fois qui me fascine et à la fois qui me fait peur. C'est-à-dire que, même dans le message qu'on donne aujourd'hui en parlant comme ça, faut faire attention à l'instinct, parce que je vois ou j'ai vu des gens autour de moi qui étaient très instinctifs, mais qui par exemple ne bossaient pas assez. Ou tu vois, enfin derrière faut produire, faut pas juste se dire tiens je vais faire ça, je vais y arriver. La foi c'est pas suffisant quoi.
Absolument.
Et on vient souvent sur la chance qui est un facteur important. On vient souvent sur oui le travail, l'apprentissage, la capacité de s'augmenter soi-même, de comprendre le monde, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, de progresser tout simplement. Donc je précise ça parce que je partage beaucoup ce que tu dis, mais ce qui est intéressant, c'est que tu le prends aussi un peu à l'envers, c'est-à-dire que t'étais pas que dans l'instinct dans je vais réussir là-dedans, mais t'es aussi dans l'instinct de je vais mettre ça de côté parce que ce truc, je le fais depuis longtemps, j'ai coché la case, mais c'est pas ce que je veux faire plus tard. C'est une belle perspective, je trouve.
Mais c'est vrai que tu parles du travail aussi et que l'instinct, quand tu as la chance d'avoir un peu d'instinct ou d'être capable de te faire confiance à ton instinct, que tu as éventuellement un peu de talent dans quoi que tu fasses, mais ça, c'est 1%, c'est 2%. Et tu as raison de dire que le reste, c'est le travail. Et par exemple, moi, quelqu'un que j'admire beaucoup, ça va te faire sourire, je pense, c'est Ronaldo, c'est le joueur de foot. Cristiano Ronaldo.
Je partage à 100%
et
ce que tu vas dire, je
pense. Pourquoi est-ce que je l'admire? Ouais. Alors, on peut ne pas aimer le personnage dans le personnage show-off qu'il est, on peut ne pas aimer sa façon d'être et sa façon un peu prétentieuse d'être. Mais Cristiano Ronaldo est le mec qui arrive aux entraînements avant les autres, qui part après les autres, qui s'entraîne plus dur que les autres, et ça depuis le début. Et il est à un âge, à 34 ans, où il est encore au sommet de sa forme, quand tous les autres mecs de sa génération à lui, ils sont tous plus là. Les Rooney, les gens comme ça, maintenant ils jouent aux États-Unis, ils sont dans des ligues troisième zone, c'est le seul.
Je suis vraiment, et je suis pour le coup pas fan de Ronaldo en soi, mais je l'admire.
Ouais.
Sur ce point très précis, je pense que Ibrahimovic, si on doit rester dans un secteur, est un peu comme ça aussi, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait d'autres sports, des taekwondo. On voit un but qu'il a marqué récemment, un 50e but qui voilà. Et du coup, c'est des gens qui arrivent à cumuler des choses, mais en travaillant énormément. Des bêtes de travail. Alors que on voit certains footballeurs qui sont très talentueux, mais qui le poussent pas jusqu'au bout. Je partage vraiment complètement cette vision. Et du coup, quand même. Et je voudrais revenir après sur le passé quand même, notamment une aventure de publisher que tu as eue qui a duré un peu longtemps. Mais quand même, ce moment où tu quittes le droit, tu t'es pris cinq barrières dans la gueule et tu dis j'en fais un sixième.
Et ben,
pourquoi?
Je me dis, à ce moment-là, je trouve un emploi comme attaché parlementaire au Parlement constitutionnel à Genève, qui est un parlement qui avait un mandat à me proposer pour 2 ans.
Donc c'est le canton, c'est ça?
C'est le canton de Genève, exactement. Okay. Le canton de Genève, donc la Suisse est un État fédéral, et donc c'est-à-dire que chaque canton a une indépendance et a une constitution qui lui délègue des compétences qui sont ses compétences à lui, à chaque canton. Et Genève était en train de réformer sa constitution et c'était un processus limité dans le temps. Et il y avait ce poste d'assistant parlementaire qui était limité à 2 ans. Et je savais que c'était de juin 2010 à juin 2012. Et je me suis dit, ben voilà, ça m'offre 2 ans. Et c'était un travail à temps plein, donc qui me permettait de gagner ma vie. Mais je précise ça, comme la Suisse connaît un parlement de milice, c'est-à-dire que les politiques et les parlementaires surtout ne sont pas des professionnels. Ce n'est pas leur métier, c'est leur hobby. Donc ce sont des médecins, des policiers, des enseignants, des agriculteurs. Et à côté de leur travail, ils sont parlementaires, ce qui veut dire que les sessions ont lieu en dehors des heures de travail. Donc soit très tôt le matin, soit le soir tard. Et je raconte tout ça pour dire que c'était un boulot qui en fait m'occupait par exemple, de 7h à 9h le matin, et puis ensuite de 18h à 23h, mais que j'avais toute la journée pour moi. Et je me suis dit, ça, c'est une opportunité qui est rare, parce que ça me permet de travailler, de gagner ma vie, et il le fallait bien, et en même temps, d'avoir beaucoup de temps pour écrire. Et je me suis dit, j'ai 2 ans pour écrire le livre que j'ai envie d'écrire, parce qu'au bout de ces 2 ans, et probablement qu'il sera refusé de nouveau par tous les éditeurs possibles et imaginables, et probablement qu'au bout de ces 2 ans, je serai vieux, j'aurai 27 ans, et à ce moment-là, je reviendrai à la raison, et peut-être que je ferai mon barreau, peut-être que je ferai ci ou ça.
C'était donc, ton barreau d'honneur, quoi.
C'était mon barreau d'honneur. Et il se passe que presque 2 ans se passent, 1 an et demi se passe, et j'écris ce roman. À ce moment-là, on est en janvier 2012, et il se passe quelque chose pendant cette année et demie, c'est que je rencontre un éditeur en Suisse qui me propose de faire paraître mon 5e roman, c'est-à-dire le dernier que j'avais écrit, et qui s'appelle « Les derniers jours de nos pères ». Et cet éditeur meurt dans un accident de voiture quelques mois après m'avoir dit qu'il avait envie de le faire sans qu'on ait signé de contrat ni rien. Et la proposition de l'édition de ce roman est reprise par un de ses amis qui s'appelait Bernard de Fallois, grand éditeur à Paris, et que je rencontre. Alors, j'en viens un peu en arrière.
Je vois derrière toi, j'ai une perspective. On est à ton bureau, donc à Genève. Et derrière toi, j'ai une page du Figaro avec la photo de Bernard de Fallois à la poursuite du général, qui a l'air d'être un beau portrait. Ouais.
Et c'était un homme extraordinaire qui nous a quittés en janvier 2018. Là. Ça fait maintenant début de l'année. Et donc, en juillet 2011, je rencontre Bernard qui me dit « Voilà, je sais qu'il y avait ce roman qui était envisagé, etc. Je vais le faire, moi. » Et tout ça pour dire que finalement, ce roman qui avait été refusé, donc qui s'appelle « Les derniers jours de nos pères », qui avait été refusé par tous les éditeurs possibles et imaginables, finalement, par une rencontre qui m'emmène vers Bernard de Fallois, roman que j'avais terminé et envoyé aux éditeurs en juin 2009, paraît aux éditions de Fallois en janvier 2012, soit 6 mois avant la fin de mon contrat au Parlement et 1 an et demi après que j'ai commencé à écrire ce nouveau roman.
Alors, la fiche Wikipédia, il parle de 2010 avec un prix que tu aurais reçu sur ce... Alors, c'est une erreur de date ou
non,
c'est...
Non, alors, le livre a reçu un prix des manuscrits à Genève au prix des écrivains genevois sur manuscrit en décembre 2010,
ouais,
qui m'a permis de rencontrer cet éditeur suisse. D'accord. Qui m'a aiguillé vers Bernard de Fallois en juillet 2011.
D'accord,
qui m'a dit à ce moment-là, je vais le faire paraître. Et le livre paraît en janvier 2012.
Et je te disais tout à l'heure, quand tu me servais aimablement un petit verre d'eau avant tout ça, que c'était mon préféré,
ouais,
moi. Et le dernier jour de nos pères, et que beaucoup n'ont pas lu. Et vraiment, alors c'est le bouquin que j'ai refilé à mes parents, qui l'ont tous les deux adoré aussi, et qui, je crois, est leur préféré également, alors qu'ils ont lu tous les autres derrière. Et donc, pour ceux qui l'ont pas lu, vraiment, je le recommande vivement. Parce que il est alors assez incroyable, différent des autres, mais tellement bien documenté. Alors c'est assez fou. C'est une histoire sur des Français qui vont en Angleterre pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qui en gros se font former par les services secrets anglais. Je vais pas faire de spoiler, je crois, mais et qu'on peut renvoyer en France par la suite. Et il y a un niveau de détail hallucinant. Et ça, t'as fait ça pendant tes études de droit ?
Oui.
Mais d'où t'as tous ces trucs-là ? C'est comment ? Enfin, ou c'est que du roman et c'est que du bullshit ?
Non.
Non, je crois.
Non, c'est vrai. Donc, c'est un roman historique. Donc, tous les faits sont vrais. Tous les personnages qui sont les agents sont des personnages de fiction. Parce que comme c'est une histoire vraie, comme l'histoire de ce service qui s'appelle le SOE est une histoire vraie, je ne voulais pas tronquer l'existence et manquer de respect à ceux qui avaient vraiment servi en racontant à moitié leur histoire ou en leur prêtant des sentiments ou des mots qui n'avaient pas été leurs. Et en fait, l'histoire du SOE, c'est que pour ceux qui ont vu le film Dunkerque de Christopher Nolan ou The Darkest Hour, qui sont deux très grands films qui racontent dans quel état les Anglais se trouvent en 1940. En juin 1940, l'armée anglaise est complètement décimée. Il ne reste plus grand-chose. Toute la flotte est ravagée. Il ne reste plus rien. Et Churchill réunit ses ministres et dit comment est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a plus les moyens maintenant d'affronter de front les Allemands, de faire une guerre de front, qui était la façon dont on faisait la guerre avant. Et comment est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on n'a pas le temps de... Comment est-ce qu'on va faire ? Le temps qu'on reconstruise une armée, les Allemands auront conquis toute l'Europe. Et l'idée vient de mener des actions de guérilla. Oui. Mais à l'intérieur des lignes ennemies, donc plus de façon frontale, plus des lignes face à face, mais des actions à l'intérieur des lignes ennemies menées par des espions, par des agents secrets. Et le grand problème, c'est comment est-ce qu'on envoie des agents secrets qui ne se font pas prendre ? Il faut qu'ils parlent la langue, il faut qu'ils connaissent les us et les coutumes d'une Europe qui, à l'époque, on l'oublie, était très divisée. Chaque pays avait ses habits, sa façon d'être, sa façon de parler. Il n'y avait pas forcément de sucre, il n'y avait pas de café. Enfin, il fallait être comme des locaux, vraiment. Et l'idée, finalement, est d'aller en France et dans les autres pays, mais moi, je parle surtout de la France, recruter des gens qui étaient pas du tout, qui se destinaient pas du tout à faire la guerre, et les emmener en Angleterre, les former, mais vraiment dans une improvisation totale. En 3-4 mois, ils étaient formés sur le tas, et les renvoyer, mener des actions spectaculaires en Europe et là en France. Moi, je parle surtout de
Tu me donnes
France.
Envie de le relire, moi.
Et c'est des trucs incroyables, mais c'est le SOE qui a permis, entre autres, le débarquement et qui a formé tous les réseaux de résistance français. Et il y a eu un grand drame après la guerre, c'est que le général de Gaulle était furax contre Churchill et contre les Anglais, parce qu'au fond, ce que les Anglais avaient fait, c'est qu'ils avaient envoyé, ils avaient commandité des opérations en leur nom, en territoire à l'extérieur, en France. Et du coup, pour la bonne entente, il a été décidé qu'on n'en parlerait pas et qu'on n'en parlerait jamais. Et il y a eu, pendant 50 ans, c'était des choses qui étaient top secrètes et dont on ne parlait jamais, jamais, jamais. Et je te raconte tout ça pour te dire que quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était au moment où le voile se levait, où il y avait les premiers livres qui paraissaient, où on rouvrait un peu tous les dossiers et les histoires comme ça. Et je me suis dit, à force de creuser un peu, je me suis dit, mais c'est tellement fascinant comme histoire qu'il faut en faire un livre, il faut absolument le raconter.
Mais tu vois, je viens là-dessus parce que toi, tu es suisse, tu es à Genève, on parle d'une curiosité intellectuelle historique, d'un truc qui te concerne pas vraiment. Comment déjà tu tombes là-dessus Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi tu creuses tout ça? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis très curieux, hein, soyons clairs, mais je ne vais pas diguer sur les histoires de l'Allemagne, quoique je regarde un petit peu ce qui se passe en Angleterre et Churchill, ça m'intéresse, mais tu vois. Alors,
de façon générale, j'ai toujours été très intéressé de façon très large par l'Europe, par l'histoire européenne. Je suis né à Genève, mais d'une mère qui est née française.
D'accord.
Elle-même de parents qui étaient russes, mais de l'Empire avant la Révolution, qui sont arrivés en Suisse clandestinement pendant la guerre par des passeurs, avant d'être finalement avec un passeport Nansen, donc avant d'être finalement en 1948, être naturalisés français, parce que c'était le dernier pays dans lequel ils avaient passé, bien qu'établi à Genève. Donc, j'ai un lien inter-européen dans l'Europe la plus large du sens possible. Peut-être que c'est ça. Mais ça, c'est marrant parce que tu me poses cette question-là. Et c'est une question qu'on m'a souvent posée. Quand le livre paraît en janvier 2012, on me dit « Oui, mais alors quand même, c'était il y a très longtemps, vous n'étiez pas né. » Et un jour, je suis invité à un panel à Morges où il y a deux historiens avec moi et une des historiennes a écrit un livre sur la cuisine au XVIe siècle. Alors, elle parle en premier, elle raconte tout ça, elle raconte, voilà, en 1520, on mangeait ci, on faisait ça, il se passait ci et ça. Tout le monde l'écoute et trouve ça très, très intéressant. Vient mon tour et je parle de mon livre qui se passe il y a 70 ans, dans une époque où on a des documents à ne plus savoir qu'en faire, où on a des témoins directs, tout ça. Et je commence à parler de ce livre et les gens me disent, mais quand même, comment vous avez su tout ça? On me pose des questions à moi qu'on n'a pas posées à l'autre.
Tu es en train de me dire que je te pose une question à la con, quoi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis fasciné parce que je trouve que la période de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui est la période constitutive de l'Europe dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est une époque indispensable à comprendre et à maîtriser, est quelque chose qu'on a tendance à mettre du côté de « c'était il y a tellement longtemps ». C'était il y a si longtemps. Et je pense que c'était il y a si longtemps, c'est aussi une forme de on n'a pas trop envie de regarder ce qui se passait. Et c'est une époque sombre. C'est une époque sombre, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de la mettre en rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi, je trouve extraordinaire, étant né de grands-parents qui ont fui, qui ont passé clandestinement, qui sont arrivés en Suisse sans papier, etc., je trouve extraordinaire aujourd'hui d'être un Européen, même si la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, mais d'être Européen dans une Europe où on passe les frontières sans rien. Ouais. Moi, je suis allé en Italie, je n'avais pas mon passeport avec moi, je l'ai oublié. J'arrive à Milan, donc je passe de Suisse en France à Milan. Tout d'un coup, en repartant, je me dis « Merde, je n'ai pas de passeport avec moi ». J'arrive à la douane franco-italienne. Un douanier français me dit « Les papiers, s'il vous plaît. » Je lui dis « J'ai pas de passeport. » Je lui dis « Mais j'ai une photo de mon passeport quelque part sur mon téléphone. » J'égrène mes photos, je lui montre. Il la regarde, il me dit « Bon, allez-y, c'est tout bon, mais c'est mieux de l'avoir avec vous quand même. » Et je me dis, ça, c'est extraordinaire dans le meilleur sens du mot, cette ouverture, cette possibilité. Et c'est un truc qu'on oublie. Et je trouve que c'est bien de se rappeler ce qui a été pour se rendre compte aujourd'hui de l'ouverture d'esprit dont on témoigne, dans la richesse qu'on a, dans le mélange qu'on a. Et c'est un truc hyper important.
Je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, c'est aussi, je te dis, en bien, parce que les autres, je les ai dévorés aussi, mais c'est vraiment le roman que j'ai préféré.
Merci.
Et je ne savais pas qu'il venait de cette période. Et du coup, avant de venir sur la suite et comment tu arrives sur cette espèce de blockbuster qu'est Harry Québer, vraiment, parce que ce qui est fascinant, c'est de le voir partout, encore maintenant, en fait, sur les plages, sur les choses, l'été, tout le monde. Dans ta jeunesse, tu as fondé une gazette, c'est ça. Donc, tu as quand même eu cette approche un peu, je ne sais pas si c'était originale, mais entrepreneuriale, créative, très jeune, c'est ça.
Oui, parce que j'aimais les animaux, j'aimais écrire. Et j'aimais, et c'est important, je te le disais avant, j'aime le dessin, j'aime le graphisme, j'aime bien tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais si, ou peut-être sans m'en rendre compte, hein, c'est ce que j'ai fait, je me dis, si je mettais tout ça ensemble, donc là j'avais 9 ans, c'était en 1995, si je mettais tout ça ensemble en faisant un journal, donc c'est l'écrit, mais avec le journal de ce qu'il appelle de graphisme aussi et de choses comme ça, sur les animaux, qui est un sujet qui me plaît. Et donc j'ai commencé comme ça, et je crois que ce que j'ai aimé, c'est que j'écrivais mon journal chez mes parents, je l'écrivais, je le préparais, je le montais de A à Z, je l'imprimais et je l'envoyais par la poste à des gens qui le lisaient et qui ensuite le lisaient, le recevaient une semaine ou deux semaines après et m'écrivaient une lettre que je recevais encore une semaine après qu'ils l'aient lue, dans laquelle ils me disaient « J'ai lu votre journal et j'ai trouvé très intéressant votre article sur les kangourous, les koalas ou le chien ou le chat, je ne sais pas quoi. » Mais c'est pour dire que ce qui me plaisait, c'était la possibilité d'un échange et la possibilité de faire d'un élément figé, qui est un texte, qui est figé, qui est imprimé, qui ne peut plus bouger, un objet d'échange et de partage. Et un truc qui tourne et qui tourne et qui tourne, d'avoir des gens qui se le prêtent, etc. Qu'on va me dire « Ah, mais mon père m'a montré votre journal et je l'ai lu et ça m'intéresse. » Et ce plaisir du partage, en tout cas le plaisir que je ressentais d'avoir ce partage, cette espèce de cycle, m'a vraiment plu. Et c'est comme ça que peu à peu, je me suis dit « Mais j'aimerais m'affranchir des faits journalistiques. » J'aimerais m'affranchir du fait qu'un chien c'est un chien, un koala c'est un koala. J'aimerais inventer une histoire et j'aimais lire et je me suis dit mais j'aimerais passer ce cap et je me suis mis à écrire des petites histoires. Alors c'était difficile au début parce que c'était pas vraiment des romans, c'était des nouvelles de plus en plus longues et puis finalement c'est devenu des romans, mais ça s'est fait peu à peu. Il y a eu beaucoup de travail et on parle souvent du roman comme... Alors, on a aux États-Unis des cours pour les romanciers, comment est-ce qu'on écrit un roman, etc. On n'a pas tellement ça en langue française. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'apprend parce que je me rends vraiment compte que c'est à force de, en écrivant et en écrivant et en écrivant, que j'ai commencé à comprendre et à maîtriser cet art. C'est un artisanat. C'est quelque chose qui
se maîtrise. Toi, tu l'as appris sur le tas.
Et moi, je l'ai appris sur le tas parce qu'aujourd'hui, si tu veux aller... Si tu veux dire, j'aimerais être un romancier, si tu veux être... psychiatre, dessinateur, journaliste ou footballeur, tu as un cursus. Tu fais médecine, tu fais une école d'art, tu fais une école de sport, tu vas dans un club, tu as une académie. Ouais. Tu as les moyens aujourd'hui, alors que tu réussisses ou pas, c'est autre chose. Mais tu as un cursus qui te permet de devenir ça avec un titre. Si tu veux être écrivain, c'est un des rares métiers, j'en vois pas beaucoup d'autres, où tu n'as aucune formation.
T'as des formations littéraires, mais c'est pas exactement pareil. Alors il y a Bernard Berber que j'ai reçu sur ce podcast, l'autre romancier, on va dire. Désormais, il y en aura d'autres à venir, mais maintenant que tu es là, et qui lui donne des cours, et je crois que ça marche bien. Il en parlait un petit peu. C'était le début quand je l'ai vu. C'était en juin 2017. Et il donne des conférences et des cours, je crois que c'est sur le week-end, sur deux jours, des cours d'écriture. Et je crois que ça marche bien, ça lui plaisait beaucoup en tout cas. Quoi,
okay.
Mais en effet, c'est des sortes de masterclass, mais très ponctuelles. Comme tu le dis, c'est deux jours, trois jours, il y a des choses, on se relie, on fait des choses. Mais c'est pas un truc sur la durée.
C'est pas une formation, il n'y a pas de cursus. Et c'est dommage parce que je crois qu'il y a des outils qui sont intéressants et ça ne veut pas dire qu'on te donne des outils que tu pourras écrire un livre. De même que tu peux faire une académie de foot, ça ne veut pas dire que tu seras un champion de foot. Tu peux faire une académie de peinture. Ça ne veut pas dire que tu seras un peintre. Mmh. Ça veut dire que tu peux essayer. Après, il y a beaucoup d'autres éléments qui font que ça marche ou que ça ne marche pas.
Mais du coup, tu as toujours été quand même hyper actif parce que ça a duré, ce journal des animaux. C'est-à-dire que je crois 6 ou 7 ans.
Oui, il a duré 7 ans, je crois.
Tu as toujours été tout seul là-dessus ou
J'ai été aidé. Alors, au début, on était pendant les deux premiers numéros, j'ai été assisté d'une dizaine de copains de classe. Et puis, assez vite, les gens se sont désistés. J'ai un de mes copains qui est resté quelques temps. On était deux, mais je faisais l'essentiel du boulot, mais il était là un peu. Et ensuite, j'ai fini tout seul.
D'accord.
Et j'ai arrêté justement quand j'avais plus envie. Hein, pour moi, l'envie, c'est vraiment un élément très important parce qu'à un moment donné, quand tu sens que tu n'as plus envie, que tu ne veux plus, c'est qu'il faut, il faut plus le faire.
Et c'est quoi ? Les gens te payaient pour que tu leur envoies ?
Alors, les gens me payaient, mais ce n'était pas des calculs très, très savants que j'avais fait parce qu'en général, ça me coûtait de l'argent à moi. Mais j'avais défini...
On revient sur les chiffres.
J'avais défini moi-même un prix qui correspondait à ce que j'estimais plus ou moins le coût de l'impression et le coût du timbre pour l'envoyer. Et puis, mais en fait, je ne prenais pas en compte le coût de l'ordinateur et puis acheter un scanner quand il m'en fallait un tout d'un coup, et puis ci, et puis ça. Oui. Donc, c'était un travail que je sponsorisais très, 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 très largement.
Tu étais sur les coûts directs, mais pas les coûts indirects.
Exactement.
D'accord. Et du coup, alors ouais, parce que quand je dis hyperactif, c'est que du coup, toutes ces choses-là, tu fais ça en plus du sport, de la musique. Enfin, c'est ouais, très jeune, tu t'embarques sur toujours une sorte de multitasking
ouais. Oui,
à fond.
Mais tu sais, il y a une expression qui dit, si tu veux que quelque chose soit fait, donne-le à quelqu'un qui est très occupé. Et je crois que c'est vrai. Je crois que plus tu fais, plus tu peux faire. Alors après, tu as les contraintes de la vie, la famille ou les enfants, ou les tout ça. Mais en fait, en général, moi, je connais beaucoup de gens qui font pas grand-chose et qui se laissent dépasser tout d'un coup parce qu'ils doivent faire un truc dans la journée. Et c'est pas une critique et je le dis pas de façon pédante parce que je crois que c'est aussi une question de ses propres limites. Mmh. Et chacun a ses propres limites et certains ont des limites qui sont plus ou des possibilités. Ou des envies, ou trouvent des ressources plus fortes, parce que, de nouveau, c'est la motivation. Et moi, le point commun que je vois dans toutes ces choses-là que j'ai pu faire, c'est que c'était à chaque fois des choses qui me procuraient énormément de plaisir. Donc, c'était pas des... On me forçait pas, je ne m'y obligeais pas. Mmh. Le vrai... Ce qui me poussait à le faire vraiment, c'était cette envie, qui est quelque chose de très énergisant.
Et du coup, après, tu reviens sur la... Il faut que j'arrête de dire du coup, tout le monde me le dit, je m'entends le dire maintenant chaque fois. Ah, tu reviens à l'ambassade. Moi, je me souviens t'avoir revu à ce moment-là, à peu près à l'ambassade de Suisse en France.
Ouais.
Je me souviens t'avoir croisé à des moments où, en effet, il me semble que tu cherchais un publisher pour Harry Kébert. Ou comment ça se passait? T'étais déjà sur De Fallois?
T'as absolument raison. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, si je reviens un peu dans l'histoire, donc ce roman, ce cinquième roman, Les derniers jours de nos pères, finalement est publié aux éditions De Fallois en janvier 2012. Et c'est un roman qui est mon premier roman paru, janvier 2012, donc ça fait 3 ans que je l'ai écrit. Et à ce moment-là, j'ai écrit Kébert. Il est prêt. Harry Kébert est prêt. Et je ne sais pas très bien quoi en faire. Surtout que Les derniers jours de nos pères paraît, on en vend 300 exemplaires, donc probablement ma grand-mère a dû en acheter 269. tu vois, c'est pas un succès, mais c'est la réalité. Et tout d'un coup, là, je me dis, merde, parce que dans 6 mois, mon travail au Parlement s'arrête, dans 6 mois, j'ai plus de salaire, et il faut que je bosse.
Et le bouquin est écrit, et quelques personnes l'ont lu, on t'a pas dit c'est une bombe ce machin?
Non, alors le bouquin est écrit, quelques personnes l'ont lu, mais comme toujours, on me dit c'est pas mal, tu vois, parce que c'est comme les autres. Si on n'aime pas, on me le dit pas. Si on aime, on me le dit pas non plus.
Tu sens pas, tu perçois pas un truc où tu dis...
Non, moi rien. Et c'est pour ça, et je pense qu'au moment, le moment où tu parles de ce livre, c'est qu'à un moment donné, donc moi je cherche un boulot, et je me dis c'est vraiment ça qu'il faut. Bernard De Fallois me dit, mais j'aimerais beaucoup lire votre nouveau livre. Et moi, j'ai pas très envie de le lui montrer parce que je me dis, mais non, mais c'est trop tôt. De toute façon, je suis pas dans l'état d'esprit de faire paraître un livre maintenant parce que mon premier roman vient de paraître. C'est pas un succès commercial du tout. Et la seule chose qui m'obsède, c'est de trouver un taf. Parce que dans 6 mois ou dans 5 mois, j'ai plus de taf et il faut que je paye les factures et le loyer, etc. Et du coup, finalement, parce qu'il insiste, j'envoie à Bernard le roman. Et en lui envoyant, je suis très embêté parce que je me dis, Bernard va pas aimer ce roman. Il va me dire que c'est pas bon. Et non seulement je vais me retrouver où j'ai pas de taf, mais en plus, la seule personne qui avait accepté de faire paraître un roman de moi va me dire, le suivant, ça sera sans moi.
C'est fou parce que, tu vois, je l'ai vécu de loin, mais en te connaissant et en voyant, donc avec beaucoup d'intérêt, tu vois, personnel. Et c'est fou d'entendre ça parce que tu me parles quand même d'un bouquin qui était en sélection pour le Goncourt, qui a eu le Goncourt des lycéens, qui a eu le Grand Prix de l'Académie française, c'est ça ?
Ouais, absolument.
Enfin, qui a eu des prix partout. Et toi, à un moment, tu envoies ça à ton publisher et tu dis, il va pas l'aimer, quoi.
Ah, moi, je me dis, c'est la merde totale. Et j'étais très déprimé à ce moment-là parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et puis, c'est quand même un coup dur, ce premier roman qui paraît, qui se vend pas, mais c'est la vie de tous les romans. Mais je veux dire, c'est un coup dur pour moi. Après avoir passé des années à écrire, quelques années, alors en même temps, tu me diras, c'est encore jeune, parce que là, j'ai 26 ans, j'ai pas encore 27 ans, on est en février 2012, mais pour moi, c'est quand même un gros tracas. Et puis,
Si je l'ai lu à ce moment-là. Moi, je pense que je l'avais lu à ce moment-là, je sais pas
déjà,
comment.
Okay.
Je pense parce que je sais que je l'ai lu avant Harry Kéber, et qu'Harry Kéber, je l'ai lu à sa sortie, donc il s'est mis à se vendre après Harry Kéber, ce bouquin.
Oui, il s'est mis à se vendre après, ouais. Et ce qui va être un élément constitutif de ce qui va suivre, c'est que je cherche un boulot à tout prix et je fais des démarches. Et c'est un moment où en Suisse, le monde bancaire se porte très mal. C'est 4 ans après les subprimes où les banques privées licencient beaucoup. Et j'écris une lettre à un directeur de banque que je connais pas personnellement, mais que j'estime beaucoup parce qu'il est médiatique et qu'on le voit souvent. Pardon. Et je lui écris une lettre en lui disant « Voilà, je vous écris parce que dans 6 mois, j'ai plus de taf. Je sais que la situation dans les banques est difficile. Je sais que j'ai qu'un diplôme de droit, que c'est pas énorme. Je suis prêt à nettoyer les toilettes de votre banque. Ça me pose pas de problème, à condition que j'ai la possibilité de faire quelque chose d'autre si je le fais bien. » Je bois une goutte d'eau.
Vas-y, je t'en prie.
Et le gars, il me répond. Il me dit...
Ça marche, j'en profite, je te laisse te refaire un peu parce que là il est en train de mourir là devant moi, mais prenez note, moi je pense, de cette démarche, parce que je pense que ça peut fonctionner. Moi je pense que je reçois 40-50 candidatures par jour, j'ai cette chance, hein, et que la plupart en fait sont des gens qui m'envoient un CV avec une lettre de motivation qui est la même pour tout le monde. Il y a zéro recherche. Sur les 40-50, il y en a même, en général, il n'y en a même pas une qui mentionne Cosa Vostra, le nom de ma boîte, ou qui mentionne. Ça arrive une fois tous les 2 ou 3 jours. Et en l'occurrence, quand on reçoit quelque chose comme ça, de l'autre côté, on se dit, t'es obligé de répondre à un truc comme ça. Déjà, t'es obligé de répondre. Donc, t'as engagé un truc. De l'autre côté, faut se mettre à la place du mec qui reçoit ça. Ou alors, c'est un gros connard. Et puis voilà, mais. Il y a quand même un moment où tu te dis, lui, il a envie, quoi, tu vois.
Et donc, je me reprends de ma toux, et donc je lui dis, je suis prêt à balayer les chiottes de la banque, ça me pose aucun souci, à condition que si je le fais bien, j'ai la possibilité de faire quelque chose d'un tout petit peu mieux, et ainsi de suite. Et je finis par rencontrer, il m'envoie chez le DRH de la banque, que je vois plusieurs fois, qui me dit, j'aimerais beaucoup vous engager, etc. Et finalement, il me dit, écoutez, je peux pas. Il me dit, je peux pas parce qu'en fait, on licencie.
On a déjà quelqu'un qui nettoie les chiottes.
On licencie. Non, mais il me dit, on est en train de licencier des gens, etc. Donc, j'ai aucun moyen par derrière de vous engager, vous. Vous n'avez pas de clients, vous avez rien. On a envie de vous engager, mais on ne peut pas. Et là, je me dis, mais si le DRH et le patron d'une banque privée n'ont pas la possibilité de m'engager alors qu'ils le voudraient, et je crois qu'ils le voulaient vraiment. Alors, si eux ne peuvent pas le faire, c'est que la situation de l'emploi est encore plus compliquée et plus merdique que ce que j'imaginais.
T'as réussi à leur faire croire que t'allais manier les chiffres ou pas ?
Tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Mais du coup, je me dis, je crois qu'il faut que je me démerde tout seul. Et à ce moment-là, je revois Bernard à ce moment-là. Donc là, quelques mois ont passé, donc on arrive au mois de juin. Je revois Bernard de Fallois qui, entre-temps, il a lu le livre, il a dit « j'aime beaucoup, on va le faire paraître tout de suite ». Et je lui dis mais moi, je cherche un boulot, j'ai ces rendez-vous à la banque parce que faire paraître tout de suite, c'est super, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse en vendre 300 ? Je suis très content que ça vous plaise, mais moi, j'ai besoin de bouffer. » Et donc finalement, quand la banque me dit que ça ne va pas le faire, je me dis en fait, j'ai aucun autre projet que ce bouquin dont Bernard me dit « mais vous allez voir, ça va marcher ». Je vais voir Bernard à Paris et je le rencontre et… De nouveau, là, c'est l'instinct. Il me dit, mais vous allez voir, ça va être un succès immense. Et je lui dis, mais comment vous pouvez me promettre que ça va être un succès immense? Il me dit, je vais le faire paraître dans 2 mois. Truc que personne ne fait. Il me dit, au mois de juin, je vais faire paraître votre livre. Au mois de septembre, ça va être un très grand succès. Et je lui dis, mais on est hors de tout ce qui se fait. C'est pas comme ça que ça marche. Un livre qui sort au mois de septembre, ils sont envoyés aux journalistes au mois d'avril, au plus tard au mois de mai. Il y a tout un projet de marketing. Il y a tout un truc, on peut pas improviser un livre comme ça. Et donc, on peut pas le faire. Et deux, vous me dites que ça va être un grand succès. Comment vous pouvez me promettre que ça va être un grand succès? Et il me dit, c'est là où lui me dit ce que je disais avant. Il me dit, mais le succès, je peux pas vous promettre le succès commercial du livre. Mais le succès, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir qu'on a à mener un projet. Et je peux vous promettre que ce livre sera un succès parce que on va avoir un plaisir fou pendant tout l'été à le préparer. Et on va s'amuser énormément, et vous et moi. Et c'est sur ça où j'ai été convaincu. Je me suis dit, mais ça, c'est la promesse de quelque chose. 2 mois d'été où je vais me marrer avec lui. Et ça m'a plu et on s'est lancé comme ça. Et le livre, ensuite, a été aussi un succès commercial, mais tombé un peu de nulle part. Je dois dire qu'au début, je ne m'y attendais pas. Le premier tirage du roman, là, on est en août 2012, était de 6 000 exemplaires. 6 000,
c'est vraiment rien.
Alors, 6 000, c'est pas grand-chose. En même temps, c'est énorme. C'est-à-dire que pour un premier ou un deuxième roman...
Oui, quand on a vendu 300 sur le premier, c'est sûr. Oui.
Mise en place de 6 000, c'est quand même beaucoup. En même temps, tu te dis, c'est pas grand-chose. Tu vois. Et ça, c'est vraiment le paradoxe du livre. C'est qu'en fait, le livre, même peu, c'est beaucoup. Ou beaucoup, c'est peu, si tu vois ce que je veux dire. Et quand lui me dit 6 000 exemplaires, moi, je me dis, mais 6 000 exemplaires, qui sont les 6 000
sachant
personnes
qu'on est bien d'accord et
qui vont acheter mon livre?
T'as pas de minimum dans ton contrat, il te dit pas, je te file... Enfin, c'est sur un truc comme ça, c'est genre que le premier, vous êtes embarqué en même temps dans la galère.
On est embarqué en même temps dans la galère, et si t'en vends pas, tu touches zéro. Il n'y a aucune garantie, il n'y a pas d'avaloir garantie, il n'y a rien. Et je me dis, mais 6 000, qui sont les 6 000 personnes qui vont acheter mon livre? C'est impossible, tu vois, tu comptes, tu fais ta grand-mère, ton machin, tes cousins, plein de Paris, ils sont beaucoup, donc ça en rajoute un peu, mais tu vois. Et on finit au mois de décembre, donc 6 mois après, à 600 000 copies. Comment expliquer ça? Moi, je l'explique par Bernard lui-même. Je parlais avant de cette envie, de cette détermination. Et lui avait envie. Et lui, il s'est battu pour ce livre, pour le faire connaître, pour en parler autour de lui. Et je crois que l'envie, que la conviction, la vraie conviction, pas la conviction du vendeur qui doit vendre, et je le dis sans condescendance pour les vendeurs, mais quand un vendeur doit vendre, il va évidemment mettre son produit en avant. Bernard, c'était quelqu'un qui n'avait rien à vendre. Parce qu'il avait, à ce moment-là, il avait 89 ans, sa carrière était faite et il n'avait pas besoin de vendre des livres pour gagner sa vie. Donc, c'était un vendeur par conviction. C'était vraiment quelqu'un qui venait et qui disait « Prenez ce bouquin ». Et il disait au libraire, il disait « Essayez-le, lisez-le et si vos clients ne l'aiment pas, moi, je les rembourse. C'est pas un problème. » Et il avait aussi cette conviction dans quelque chose de très inclusif. Il disait pas « Ce livre est génial, vous devez le lire. » Il disait aux libraires, ils allaient les voir, ils disaient « Écoutez, j'ai lu ce livre, je le trouve vraiment génial. Est-ce que je suis le seul à le trouver génial? Est-ce que vous pourriez me rendre un immense service qui est de le lire et de me dire ce que vous en pensez ?» Et cette façon de faire très inclusive poussait les gens à lire.
Ça donne envie de le rencontrer, c'est dommage qu'il ne soit plus là parce que...
C'était un homme incroyable. C'était un homme incroyable et souvent quand je faisais des interviews et qu'il m'accompagnait dans les studios de radio ou ailleurs et qu'il restait à côté de moi ou derrière la vitre, je le voyais lui, c'est moi qui parlais, j'avais envie de dire à l'autre en face de moi, j'avais envie de dire mais en fait c'est pas moi qui dois parler, c'est Bernard, c'est lui l'homme extraordinaire, c'est lui le génie, c'est lui qui a tellement de choses à dire.
C'est marrant. Et du coup, ce truc... On s'est recroisés, on a échangé pas mal à cette époque-là. Il y a une petite anecdote assez marrante, c'est que donc t'es mon cousin par alliance et ma cousine Marie qui a une toute petite boutique à Suresnes. Je sais pas si tu te souviens de ce Marie-Stéphanie, donc une librairie qu'elle a reprise aussi, qui a changé vraiment complètement de vocation à un moment. Et je lui avais dit, tu n'avais pas encore complètement explosé, ça devait être en septembre ou voilà. Et je lui ai dit bah tiens. À la limite, peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être plus moi qui disais « Rends-lui service, il sort son bouquin. » Et puis, ce serait bien qu'il en vende quelques-uns. Mais je pense qu'on était un peu là-dedans. Hein. Je faudrait que je regarde nos échanges si je les retrouve. Et puis, ton truc, pof, a explosé. Et du coup, après, tu signais partout sur les Fnac, Champs-Élysées, les machins et tout. Et elle me disait « Mais il va jamais venir à mon machin, tu vois. » Et tu y es allé. Et c'est vrai que... ça l'avait beaucoup touché, ça m'avait beaucoup touché aussi, parce que pour un petit libraire de Suresnes, faire venir quelqu'un qui est sur le point d'avoir ou qui a un concours des lycéens, qui a un grand prix de l'académie, c'est quand même quelque chose de fat. Et t'aurais pu dire, bah, ce qui arrive, hein, je suis désolé, je peux pas, là, je suis engagé ailleurs.
Mais tu sais, je le vois différemment. De deux façons. Alors, d'abord, un engagement est un engagement. Et c'est quelque chose que Bernard avait, on l'avait en commun aussi. Quand tu dis que tu le fais, tu le fais. Quand tu dis que tu viens, tu viens. Et à moins qu'il y ait mort d'homme ou quelque chose de gravissime, sinon tu déplaces et tu reviens une autre fois.
Oui.
Mais la parole, c'est la parole. Mais je dois dire que dans mon approche de... Alors là, du livre comme objet plus commercial, hein, si on est dans la définition de ce que c'est, pour moi, il n'y a pas de petit libraire, il n'y a pas de petit lecteur. Il n'y a pas de temps perdu. Et j'ai des auteurs. Et j'entends des fois des auteurs qui me disent « Mais qu'est-ce que je vais aller me faire chier là-bas pour vendre 30 livres ?» Eh bien, 30 bouquins, c'est 30 lecteurs de plus.
Ouais.
C'est 30 personnes. Et pour moi, chaque livre, et encore aujourd'hui, à chaque fois que je vais faire une dédicace ou que je vais signer, il n'y a pas de petite dédicace, il n'y a pas de temps perdu. Un lecteur, et j'ai commencé comme ça parce que quand j'ai signé les exemplaires, quand je suis allé faire les dédicaces de mon premier roman, j'ai fait par exemple le Salon du Livre de Paris pendant 3 jours et j'ai signé un bouquin au bout des 3 jours. Et ben pour moi, c'était pas du temps perdu, c'était j'ai réussi à convaincre un mec. Et chaque lecteur que je peux convaincre, chaque lecteur à qui je peux faire lire mon livre, c'est quelque chose d'autre qui s'engage. Et ça, c'est important pour moi. Je crois que vraiment, alors il y a pas du tout de ça vaut pas la peine ou il y aura pas assez de monde.
Mais je le vis dans une toute petite mesure avec ce podcast, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste et que des gens écoutent potentiellement aussi après. Mmh. Et qu'à chaque fois que quelqu'un... Donc, tu as souvent des échanges, mais tu as ce truc reste, ce bouquin, tu le disais tout à l'heure, que tu as écrit avant, reste, mais tu as quand même cette relation avec cette personne que tu crées en écrivant, qui te lit et qui lit ton histoire, qui sort quand même de ton cerveau.
Ouais.
Et c'est quelque chose de... un lien qui est hyper fort, en fait. Et donc, comme tu le dis, 1, 10, 30, des millions, en fait. Alors, c'est un trip quand c'est des millions, j'imagine, mais chacun individuellement est très important.
Mais c'est un trip dans l'amplification, parce que, exactement, c'est comme tu dis, chaque personne est un truc privilégié et particulier. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de monde qui viennent à mes séances. Et dans les dernières, là, j'avais 400-500 personnes. Et un jour, j'ai un libraire qui me dit ici... J'étais à Genève, il y a une queue qui fait le tour du bâtiment, il y a 500 personnes qui font la queue pour venir signer, il me dit « c'est de la folie ». Et je lui dis « non, c'est pas de la folie parce qu'on n'est pas dans quelque chose, dans une hystérie, dans une folie, c'est rien de vedettariat, c'est un vrai échange. C'est un vrai... Et moi, c'est des moments qui me donnent de l'énergie. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que d'abord, avec mon tout premier roman, « Les derniers jours de nos pères », j'en ai pas vendu un et il n'y avait personne, donc c'était un peu vide. Ensuite, Harry Quebert a eu tout d'un coup cette grande mise en lumière très médiatique à la télévision, dans les journaux, à la radio. Et les gens venaient, ne m'avaient jamais lu. Et me disaient « Ah, signez mon livre parce que je vous ai vu à la télé ou je vous ai vu dans le journal. » Mais il n'y avait pas vraiment de lien. Et puis après, il y a eu les Baltimore. Et puis, ils n'avaient pas encore lu les Baltimore. Ils avaient lu Quebert. Et puis, on me parlait de Quebert, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur. Et je le dis vraiment, c'est un bonheur. Quand je vais signer, j'ai des gens qui ont lu 1, 2, 3, 4 de mes livres. Et qui viennent me parler de tout ça, de leur expérience. Et qui viennent me dire, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé. Enfin, peu importe ce qu'ils me disent, mais c'est une vraie expérience, c'est un vrai truc et c'est vraiment fort. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un monsieur qui est venu faire la queue. Il a fait 1h30 de queue pour me dire, je venais vous dire que j'ai lu Harry Quebert, que j'ai trouvé très mauvais et je voulais vous dire pourquoi. Et il l'a dit très bien, il n'avait pas aimé, c'est très bien. C'est l'échange, tu vois. Mmh. On aime, on n'aime pas, on en discute. Et je trouve que c'est ça, l'art et la littérature comme le cinéma, c'est la possibilité de mettre des gens ensemble, d'échanger, de fédérer et de ne pas être du même avis.
Ce qui doit être
très grave.
Hyper dur quand on me dit ça, parce que donc, je viens d'un milieu d'entrepreneurs, de start-up, de choses, de ce qu'on devait appeler du lean ou des choses comme ça. Quand tu as des feedbacks comme ça, alors de temps en temps, il ne faut pas les écouter parce que c'est une infime partie des gens. Mais ce que tu appelles les méthodes lean ou les choses comme ça, c'est que tu bouges en permanence, tu corriges. Si des gens te disent des trucs ou que tu remarques un truc qui est dans ton roman, que finalement tu dis, ouais, ils ont peut-être raison, c'est peut-être... Toi, t'es foutu, il est figé, c'est ce que tu dis.
Le roman, il est figé. Mais en fait, le roman, c'est un peu comme une photo de toi. C'est-à-dire que tu as fait une photo de toi quand tu avais 15 ans et que tu sortais un soir en disco, etc. Si tu revois cette photo aujourd'hui, tu vas te dire « Oh mon Dieu, la tronche que j'avais. »
Je pense que j'en ai une ou deux de toi.
Et tu en as une ou deux de moi. Et on va se dire, on va avoir envie de tendance à se dire « Oh mon Dieu, mais quelle horreur !» Mais parce qu'on se dit bah, « C'est comme ça, j'étais comme ça il y a 15 ans. » Et au fond, on est plutôt content de se dire, parce qu'on le met en perspective par rapport à nos vêtements ou notre tête aujourd'hui. Mais ça, c'est l'évolution, parce qu'ensuite, le temps passe et tout d'un coup, à 75 ans, on voit une photo de nous à 30 et on se dit « qu'est-ce que j'étais beau avec mes cheveux et mes pas de rides et mes trucs comme ça et à ma police ». Et ça, c'est l'évolution. Et le livre, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est figé. Et des fois, c'est une image que tu regardes en disant « oups, j'aurais pas fait ça comme ça maintenant ». Mais tu te mets en perspective par rapport à l'époque, et des fois c'est un truc qui t'a plu et t'as fait moins bien après, tu te dis ah, faudrait que je me remette un peu comme ça ou c'était bien avant. Il faut pas avoir honte.
Non, je vais respecter ton agenda, il nous reste à peine 10 minutes donc on va aller vite. Je voudrais aborder 3 points avec toi. Un point qui est sur le détail de tes bouquins et le niveau de détail, par exemple quand tu vas à Baltimore ou différents endroits dans le dernier que j'ai lu, évidemment, tu es où
Dans les Hamptons.
Dans les Hamptons, exactement. Ouais. Donc, il y a un niveau de détail incroyable. Donc, tu les connais, les endroits, tu y es allé, tu y as passé beaucoup de temps à chaque fois.
Oui, alors là, c'est des endroits que je connais et c'est parce que je les connais que je les mets dans le livre.
Mais tu y retournes pendant l'écriture ou c'est du souvenir
J'y retourne en partie, mais parce que, par exemple, je suis retourné dans les Hamptons pendant l'écriture du livre, mais c'était un peu par hasard. Je suis pas retourné parce que j'y suis retourné entre guillemets par hasard, en même temps parce que c'est des lieux dans lesquels je vais de temps en temps quand même.
D'accord.
Et que du coup c'est pas un miracle ou c'est pas une coïncidence que j'y aille. Et je raconte au fond ce que je connais, parce que ce que je connais pas c'est l'intrigue, c'est les faits. Et pour moi les faits, pour les raconter bien, ça c'est personnel, c'est mon avis, hein, pour raconter bien des faits, il faut décrire un cadre ou il faut utiliser un cadre que tu maîtrises parfaitement pour emmener avec toi le lecteur. Et si je devais raconter une histoire en Inde, par exemple, qui est un pays que je ne connais pas et dans lequel je ne suis jamais allé de ma vie, il y a aujourd'hui toutes les facilités du monde pour me permettre de te décrire l'Inde telle qu'elle est vraiment, mais je crois que ça sonnerait faux. Oui. Ça sonnerait très artificiel parce que ce serait quelque chose que j'ai vu et pas quelque chose que j'ai expérimenté. Et je crois que le ressenti est un des meilleurs cadres pour un livre. Parce que le ressenti, c'est quelque chose que tu partages et que le ressenti que tu as toi, il fait appel chez des lecteurs à leur ressenti à eux.
Je comprends, j'adorais, on va pas avoir en plus le temps de rentrer dans toutes ces techniques justement, parce que c'est ça qui est passionnant aussi, le détail de comment tu structures et comment... L'autre point que je voulais aborder vraiment rapidement, si possible, c'est ton orga, c'est-à-dire que... Bernard Werber me racontait vraiment une orgueille quasiment militaire, en fait, sur sa manière d'écrire, qui est assez passionnante. J'entendais Paulo Coelho aussi, sur les horaires très tôt, etc. C'est quoi, toi, ton truc ?
Alors, moi, c'est aussi très tôt. Et peut-être, dans tous ces écrivains qui se lèvent très tôt, c'est peut-être que encore plus dans le monde moderne dans lequel on vit, on est sans cesse dérangé. Et que quand le très tôt correspond aussi au très tôt de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'essentiel de mes amis, de ma famille et de mon activité est essentiellement sur le fuseau horaire de la Suisse et de la France elle-même, alors je sais que rien ne se passe avant au mieux 8h30. Et qu'avant ça, c'est des heures de calme total. Et ce calme total, il est vraiment une possibilité de s'immerger dans le roman, dans la fiction, sans être dérangé, par tout ce qui peut nous déranger à la journée.
Et du coup, tu te fixes un nombre de pages, quand tu commences un roman, tu sais quand tu vas le finir, quand tu...
Non, moi je sais rien.
Dans ta tête, il y a
non,
quoi,
tout
il y a
ce
quoi.
Que je me fixe, c'est un maximum d'heures possible par jour, c'est-à-dire le plus possible. En général, ben, je commence très tôt vers 4 heures et idéalement, je finis en fin de journée vers 6 heures ou 7 heures du soir et je peux me faire des journées entières sans problème. Avec idéalement un petit moment de sport, une petite coupure pour me changer les idées. Mais ça, c'est des journées idéales pour moi. C'est des grosses journées comme ça. Après, ces journées-là sont grevées par un voyage, un rendez-vous chez le dentiste, aller voir, faire
une séance de signature.
Une séance de signature, faire des appels pour mon éditeur ou pour voir ce qui se passe. Donc, il y a mille et une petites choses, entre guillemets, parasites, qui sont importantes aussi, mais qui viennent parasiter le travail d'écriture. qui pour moi pourrait être jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est là où tu t'éclates.
Quelque chose qui... C'est là où je m'éclate et c'est surtout quelque chose qui se nourrit lui-même. On me dit des fois, on me dit, mais est-ce que tu n'as pas peur de plus avoir de l'inspiration ? Mais je n'ai pas peur de ça parce que je crois que l'inspiration, elle est vraiment, elle se nourrit. Et que plus tu écris, plus tu crées, plus tu fais, plus tu peux faire. Un peu comme un muscle, où au fond, plus tu t'entraînes et plus tu travailles un muscle, plus tu peux faire. Plus tu peux aller loin, plus tu le développes, plus tu peux aller encore loin. Et il y a au fond une infinité de possibilités.
T'es loin de l'écrivain un peu en dilettante qui te balance son truc en 4 jours et qui... c'est pas ton trip. Ça.
C'est pas mon trip. Alors, je sais pas si c'est dilettante. Il y a des gens, et je les admire, qui sont capables d'écrire très vite quelque chose et comme ça. Moi, je travaille plutôt lentement. Et il y a surtout toutes ces idées qui se confrontent. Et la difficulté, c'est de faire le tri dans les idées. Est-ce que celle-là est bonne, etc. Alors, souvent, c'est difficile de savoir si une idée est bonne. C'est plus facile, comme je disais avant, pour l'instinct de trouver quelle idée n'est pas bonne. Et il faut commencer, je commence souvent en essayant de trouver les mauvaises idées ou ce qui est moins bien, ce qui va moins, et en les enlevant.
Et tu sais à peu près où tu vas quand tu commences un bouquin, quand même ?
Non, je ne sais pas très bien. C'est justement, alors c'est très laborieux parce que comme je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui se passe, toutes les possibilités sont là. Je fais ma route un peu à l'instinct, un peu à l'envie. Et des fois, ça m'amène sur des chemins qui ne sont pas les bons. Et je coupe beaucoup. Voilà, mon dernier livre, Stéphanie Meller, j'ai dû couper. Donc, il fait 600 pages à peu près. Mais il y a une des versions qui faisait 1200 pages. J'ai coupé la moitié du bouquin.
Donc, tu le relis.
Je le reprends, j'enlève, je change, j'enlève.
Tu changes des personnages, t'en fais disparaître, t'en rajoutes.
Ouais. Tout le temps, parce que c'est infini. C'est comme quand tu te promènes dans la rue.
Et du coup, tu te souviens, là, par exemple, de la dernière version telle qu'elle est, ou parce que ça doit s'entrechoquer un peu, il y a des personnages que tu as supprimés, ils reviennent pas dans peut-être que tu y penses plus, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure.
Alors à la fin, je sais à peu près, non, je sais assez bien, je veux dire, je sais assez bien où j'en suis et je sais tout à fait ce qui s'est passé, ce que j'ai enlevé, et je maîtrise assez bien le truc. Et j'ai la chance chez mon éditeur de travailler avec une femme qui est la correctrice et celle qui met en page et qui est vraiment la tête pensante de tout le travail éditorial que j'apprécie énormément. Et elle a cette capacité d'oublier une version par rapport à une autre. Et ça, c'est incroyable et c'est une grande chance que j'ai.
Parce que
hyper unique parce qu'elle ne se mélange pas les pinceaux.
Parce que c'est quand même... quand tu as bossé 2 ans sur un bouquin, quand tu l'as fini, entre guillemets, tu dis je le relis une dernière fois, ça doit être un peu chiant.
Oui, tu le relis, mais tu le relis plus parce que tu vois plus rien, parce que tu l'as relu tellement de fois et re-relu et relu encore qu'il y a plein de trucs que tu n'arrives plus à lire, plus à voir. Et à un moment donné, il faut décider que le livre est fini. Parce qu'un livre, tu pourrais passer une vie entière à écrire le même roman, à le réécrire, à le reprendre, à l'améliorer, à le recommencer encore, à enlever des personnages. Et je crois en fait qu'à un moment donné, tu dois prendre sur toi et te dire « j'assume ce que j'ai fait, j'assume mon livre ». Il est bien comme il est comme ça. Il est ce que j'ai pu faire de mieux maintenant, aujourd'hui. Dans une semaine, il aurait pu être différent. Dans un an aussi, mais c'est maintenant. Ouais. Et on arrête là. Et le prochain sera embelli et amélioré de tout ce que j'aurais pu faire de mieux pour celui-là.
C'est assez fascinant quand même. Et du coup, quand tu finis un bouquin, tu passes à l'autre combien de temps après ?
Tout de suite, souvent.
Tu te dis pas, je pars en vacances, je fais un truc, je vais. T'écris en vacances ?
J'aimerais ne pas écrire.
Ouais.
J'aimerais ne pas écrire et souvent ce laps de temps est très court. Quand Stéphanie Meller est partie à l'imprimerie en février, j'ai eu une semaine de vacances qui était une semaine extraordinaire pendant lesquelles j'ai pu penser à autre chose que mes livres. Et j'ai pu lire un bouquin sans penser au mien, j'ai pu voir un film sans penser à mon livre, j'ai pu vraiment avoir l'esprit libre. Et malheureusement, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais malheureusement ou heureusement, tout d'un coup, une idée arrive. Et tout d'un coup, tu ne peux pas t'en empêcher, je ne peux pas m'en empêcher. Je prends mon bloc et j'écris, tu vois, là, sur mon bureau, j'ai beaucoup de papiers, j'ai plein de trucs.
T'écris à la main, t'écris pas ?
J'écris beaucoup à la main. J'écris beaucoup à la main.
Le matin, à 4 heures du mat, t'écris à la main ? T'es devant ton ordi quand même ?
Ça dépend. Le matin, c'est plutôt de l'ordi et la main, ça vient plutôt dans la journée.
Et sur quel outil ? Word ?
Word, ouais. C'est un document Word, tout bête.
Okay.
Et j'écris sur Word, c'est tout simplement.
Avant de te laisser, j'aurais bien aimé en parler 2 heures, mais les petites techniques, les petites choses, je sais pas, que t'as dans ta vie qui te permettent de t'accrocher à un truc. Tu parlais de sport, tu médites, t'as des trucs spécifiques un peu où tu te dis ça, c'est auxquels tu t'accroches, des branches.
Le sport, c'est vrai que c'est important. Le sport, non pas dans son intensité, mais dans sa déconnexion, dans la déconnexion que ça m'apporte. Parce que quand je pars faire du sport, alors souvent je vais courir jusqu'à quelque part et je fais des exercices au sol ou des choses comme ça. En fait, c'est un moment où j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas mon cahier avec moi, j'ai pas de téléphone, et c'est un moment de rupture totale. Et je crois que ce qui me pèse le plus que mon livre qui m'habite tout le temps et auquel je pense tout le temps, je crois que ce qui me pèse le plus, c'est cette forme, cet esclavagisme au téléphone, à la connexion, à l'hyperconnexion permanente tout le temps. Et j'essaye maintenant, je commence. Et j'ai essayé cet été, j'essaye de le mettre en place, d'avoir des moments où je me déconnecte, où j'ai plus de téléphone, où j'ai plus ce réflexe de relever mes mails, de voir sur Instagram, de voir si j'ai perçu un message, de voir si et ça. Et en fait, je me rends compte qu'on est nous-mêmes, on nourrit nous-mêmes cette hyper-communication parce que, par exemple, sur les WhatsApp, des 150 groupes dont tu fais partie, je pense, groupe de famille, groupe des copains, groupe du foot, groupe du truc, groupe des copains, en fait, on passe notre temps à communiquer sur des sujets qui ne sont pas très intéressants. Ouais. S'envoyer une photo, s'envoyer un truc, s'envoyer un machin, tiens, j'ai vu ça. Et les gens te répondent et tu nourris tout ça. Et j'ai remarqué que quand je fais une pause de quelques jours ou même une journée où je n'utilise pas le téléphone, et ça m'arrive de temps en temps, je me dis, je ne l'allume pas, je ne l'utilise pas, je suis off. Quand je l'allume le soir, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sûrement recevoir 150 000 messages. Eh bien, rien. Eh bien, zéro. Parce que quand tu ne sollicites pas, et ça en dit long aussi, je pense, sur la solitude dans laquelle on vit.
Ouais.
Quand tu sollicites pas, très souvent les gens te sollicitent peu ou de moins en moins.
Et c'est un point hyper important parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, ça, de notre vivant. Nous, on a vécu l'avant.
On sait
ce que c'était avant le monde, avant tout ça. Et c'est quelque chose qu'on apprend. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est parti trop loin, en fait. Et il y a quelques années, je pense que c'était presque pire. Instagram, en ce moment, c'est un souci quand même pour beaucoup. On sent Instagram, WhatsApp, c'est... Pff,
c'est terrible. Mais,
ouais. Et du coup, justement, et pour finir, on te suit où, Joël? Si on veut, c'est sur Insta, c'est alors, sur Facebook, c'est une des pages, c'est... j'imagine pas LinkedIn, mais...
Non, alors j'ai Facebook, Twitter et Instagram. La page que je préfère et sur laquelle je suis le plus à l'aise, c'est Instagram.
Ouais. Donc c'est je le mettrai.
At Joël Dicker.
Ouais.
Et je réponds volontiers aux commentaires, ou je reçois beaucoup de commentaires et de questions.
Okay.
Et c'est une belle expérience pour moi parce que j'ai encore pas eu, pas encore, je touche du bois, j'ai pas eu de trolling, j'ai pas eu de gens qui m'insultent, j'ai eu tout simplement des gens qui me veulent du bien et qui me posent des questions, et donc voilà, donc sur Instagram avec plaisir.
Écoute, je suis en train de te prendre en photo pour on se fera un selfie pour nos Instagram respectifs. Je te remercie mille fois, j'ai tellement kiffé ce moment.
Plaisir. On se voit pas assez souvent.
Voilà, puis la fois où on s'est vu, on a passé le temps de notre vie enregistrée, mais au moins on en aura un souvenir ému dans 50 ans.
Mais à bientôt avec plaisir. Et un des regrets que j'ai, tu vois, c'est que je vois pas assez les gens que j'aime, parce qu'en ce moment, ça fait maintenant 5 ou 6 ans où je me dis toujours, ça va s'arrêter, donc il faut que je profite, il faut que je fasse vite encore ça, parce que demain on me lira plus, demain je serai plus là, on sera plus intéressé par moi. Et du coup, par exemple, je suis à Paris souvent, mais je vais à Paris pour les trucs que je dois faire, comme un ouf, j'arrive et je repars. Et c'est dommage parce que je ne prends pas le temps de voir ma famille, entre autres. Mmh. Beaucoup de mes cousins et que j'aime beaucoup qui sont à Paris.
Et donc,
c'est un vœu que je formule. Il faut que je prenne un peu le temps
pour
ça.
On y arrive. On y arrive toujours. C'est une question de volonté.
C'est vrai.
Bah écoute, Joël, je te remercie.
Merci à toi.
À très bientôt.
À bientôt.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.